5. Tu me dis quand commencer. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Alors, bonjour. Je suis bien content d'être parmi vous ce matin, avoir l'occasion de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Peut-être pour me présenter un petit peu, étant donné que c'est la première fois que je viens ici. Mon nom est Marc Fauché. Je fréquente l'Église évangélique baptiste de la Haute-Kamaska, c'est à Granby. Le Seigneur m'a sauvé, j'avais environ 14 ans, par quelqu'un dans ma famille qui s'est mis à prêcher l'Évangile, mon oncle, qui s'appelait Lorenz Fortin. Vous pouvez vous imaginer qu'il ne passait pas inaperçu dans la famille. Et donc, oui, le Seigneur m'a sauvé à cet âge-là. Bon, aujourd'hui, je suis fait partie de l'équipe des anciens à l'église où je vais. On a un ministère en particulier de banque alimentaire auprès des gens qui ont besoin dans la région. Il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là et aussi l'occasion de vivre parmi ces gens-là ce que Jésus ferait pour leur venir en aide. Je suis marié avec Raymonde Bissonnette, une charmante dame qui a été sauvée, elle, par l'intermédiaire de Lucille, la femme de Lorenz, qui se trouve être ma tante. Aujourd'hui, bon, alors on a 8 enfants, tous rendus grands, évidemment, et puis on est rendu à 12 petits-enfants. Alors on est grandement bénis et contents d'avoir tous ces jeunes-là autour de nous. Donc voilà pour les présentations. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est dans 1 Samuel, chapitre 25. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Juste avant, je voulais commencer un petit peu avec une histoire de vécu. On dit que les nouveaux mariés en voyage de noces vivent toujours une mésaventure ou l'autre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a été notre cas. En tout cas, on a eu notre mésaventure et je vais vous la raconter brièvement. On était en voyage à Toronto. On avait stationné la voiture l'après-midi là, sur une rue du centre-ville. Et puis, j'ai lu bien comme il faut là, sur la pancarte de stationnement, c'était quoi les règles, c'était assez compliqué. Mais pourtant, c'était bien identifié la zone qui était permise, où on pouvait laisser la voiture, les heures de la semaine qui étaient permis, les jours qui étaient permis. Alors, tout est beau. On verrouille les portes de la voiture et on part faire notre petite visite dans l'après-midi. Lorsqu'on revient, à la fin de l'après-midi, surprise, l'auto n'est plus là. Et là, j'ai dû contacter la police, apprendre, là, ça, il y a longtemps, là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. J'apprends que notre auto a été remorquée pour une infraction de stationnement interdit. Il a fallu se rendre par nos propres moyens à une douzaine de kilomètres chez le remorqueur qui avait la voiture. Et il a fallu payer les frais pour récupérer l'auto, de sorte que notre budget de voyage à l'époque a été réduit d'une somme là, qui est à peu près l'équivalent de 150 $ aujourd'hui. Fait que pour un budget d'étudiant, c'était beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer? J'avais pourtant vérifié toutes les règles sur le panneau de stationnement, mais un peu plus haut que ces règles-là. Il y avait un autre règlement au-dessus de tout qui disait « aucun stationnement » de 16h à 18h. Alors, ce règlement principal-là, il prenait le dessus sur toutes les autres règles en dessous. Il avait préséance, on pourrait dire, il avait priorité, et puis il rendait toutes les autres règles en dessous sans effet. Ça ne comptait pas, c'est celle d'en haut qui comptait. Eh bien, je voudrais qu'on garde ça en tête parce que je vais revenir un petit peu plus tard sur les vérités qui ont préséance, priorité, sur toutes les autres vérités de nos vies, tous les autres événements de nos vies. Et donc, le titre du message ce matin, c'est « Injustice terrestre et promesse céleste ». C'est le titre du message parce qu'on va voir trois choses ensemble dans la vie de David. D'abord, on va voir le lourd fardeau des injustices qui pèsent sur la personne qui subit des injustices, le lourd fardeau. Ensuite, on va voir la colère intense qui peut être déclenchée quand on subit des injustices. Et finalement, troisième chose, on va voir le réconfort véritable. Où trouver le réconfort véritable malgré les injustices? Et donc, avant de poursuivre, on va prier maintenant. Seigneur Jésus, c'est encore un privilège de se mettre à l'écoute de ta parole qui est vivante. Toi, tu es vivant. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et ce matin, tu veux nous parler par ces paroles que tu as fait mettre par écrit dans ce livre merveilleux qui est le tien. Alors, Seigneur, enlève toute distraction de ma part ou autre pour qu'on soit à ton écoute et parle-nous ce matin pour qu'on te ressemble davantage. Amen. D'accord, donc 1 Samuel, chapitre 25, on va commencer le récit au verset 1. Laurence m'a dit que j'avais jusqu'à 3 heures cet après-midi, fait que je prends mon temps. 1 Samuel 25, 1, je fais une blague. Alors, on lit « Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. » Donc, pour un peu se rappeler les personnages ici, Samuel, c'est le grand prophète. Le grand prophète en Israël que Dieu avait choisi pour oindre, c'est-à-dire verser sur la tête de David, l'huile d'onction. Et ça l'indiquait que Dieu avait choisi David comme prochain roi d'Israël. On voit ça au chapitre 16. On ne tournera pas, je le mentionne en passant. Parce que Dieu avait rejeté le roi Saül, le roi qui était là à ce moment-là. Dieu l'avait rejeté à cause de son incrédulité. Et il avait choisi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Alors là, au début de notre récit, pourquoi David descend au désert de Paran? Eh bien, on réalise que David est en fuite, encore en fuite, en fait, parce que le roi actuel, Saül, bien lui, il le pourchasse avec son armée et veut lui enlever la vie. Et dans 1 Samuel, à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 27, ça fait une dizaine de chapitres, ça, le texte biblique nous décrit les nombreuses situations où David subit de l'injustice. De l'injustice. Et là, si on rembobine un petit peu comme un genre de flashback l'histoire de David, pour un peu comprendre l'injustice qu'il vit, souvenons-nous que dans sa jeunesse, le jeune et loyal David, il avait vaincu le géant Goliath. Vous vous souvenez de cet événement-là, avec l'aide de Dieu, il l'avait vaincu. Et c'est là qu'il avait été invité à se joindre à la cour du roi Saül. Et là, David a eu d'autres succès militaires, toujours grâce à l'aide de Dieu. Et l'amour du peuple d'Israël pour David augmentait de plus en plus. Les gens l'appréciaient. Et à un moment donné, le roi Saül, il est devenu jaloux. Jaloux de tout ce succès-là. Et le texte dans 1 Samuel 18, je vous mentionne la référence, ça dit simplement que Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. On a ça dans le chapitre 18. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses vont rapidement se dégrader pour David. Très peu de temps ensuite, David évite une première tentative de meurtre de la part de Saül. On voit ça dans 1 Samuel 18, 11. Ensuite, une deuxième tentative de meurtre au chapitre 19. Et là, David doit quitter la cour royale. Il retourne dans sa maison. Le roi ne perd pas de temps, fait entourer sa maison par ses soldats pendant la nuit pour que dès que le matin arrive, David soit mis à mort. Et donc, David a dû fuir par une fenêtre. Imaginez-vous, fuir de chez soi par la fenêtre. On voit ça dans 1 Samuel 19, 18. Et il se rend auprès de Samuel le prophète à Najot. Le roi Saül le poursuit. Et se rend lui aussi dans cette ville, mais son projet de tuer David échoue à ce moment-là encore. David s'enfuit encore, s'en va dans une autre ville, à Nob. Je vous résume tout ça pour voir le parcours. Et là, dans cette ville-là, il y a plusieurs sacrificateurs. Et il y a un étranger qui dénonce la présence de David dans cette ville-là. Le roi Saül s'en vient dans le but de le tuer. Il est furieux de ne pas avoir été avisé plus tôt. Et dans sa vengeance, le roi Saül, il fait tuer tous les sacrificateurs et les habitants de cette ville. David fuit encore. Il sort du pays d'Israël. Il va chez les Philistins, à Gath. Ensuite, il va se réfugier dans la caverne d'Adullam. Je vais vite, juste pour avoir l'idée du parcours. Et c'est là que, avec David, se sont joints plusieurs hommes. On nous dit des hommes qui étaient en détresse, des hommes mécontents, des hommes qui avaient des dettes. Il est rendu avec 400 hommes Alors, toute une troupe un peu spéciale qui accompagne David. Et là, David doit encore fuir cette fois-là au pays de Moab, puis il s'en va là pour mettre en sécurité son père et sa mère, qui étaient aussi menacés. On voit ça dans 1 Samuel 22. David les met en sécurité là-bas, revient dans le pays d'Israël, va combattre courageusement pour délivrer un village d'Israël contre les Philistins. Le roi Saül, pas reconnaissant du tout d'avoir eu l'aide de David de cette façon-là, se met à sa poursuite avec son armée. Et là, David fuit au désert. Il semble qu'il restait de moins en moins d'endroits sécuritaires pour David pour fuir, parce que dans la parole de Dieu, au chapitre 23, au verset 13, ça dit « Ils s'en allèrent où ils purent ». David, là, il ne reste plus beaucoup d'endroits pour se cacher. Encore une fois, les habitants de l'endroit remarquent David avec sa troupe, avertissent Saül que David est là. Saül vient pour tuer David. Et là, intervention de Dieu. Il y a une armée ennemie qui intervient dans le pays d'Israël. Le roi Saül en est avisé. Il doit tout laisser là pour aller s'occuper de ça. Ouf! Saül l'a échappé de très peu. Il fuit encore dans la région d'En-Gedi. À nouveau, les habitants ont averti le roi Saül. Saül se déplace là-bas avec sa troupe d'élite. Et là, il se passe quelque chose d'un peu spécial. Saül s'arrête à un endroit, dans une caverne, on nous dit. Et là, c'est l'occasion rêvée. David a la chance de tuer Saül. Même ses hommes à David disaient là, manquez pas. C'est maintenant ou jamais. Et David refuse de porter la main sur Saül parce que Saül était l'homme choisi par Dieu. On a ça dans 1 Samuel 24. Alors qu'il traversait toutes ces circonstances-là qu'on vient de parcourir rapidement ensemble, David a écrit 8 psaumes. 8 psaumes. Je vous nomme les références. Vous pourrez les regarder chez vous. Psaume 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63 et 142. C'est précieux dans ces psaumes-là parce que Dieu a voulu que David nous fasse connaître comment il vivait ça à l'intérieur, toutes ces situations-là périlleuses. Quel genre d'émotion remplissait son cœur? Je vous les résume. David était angoissé et oppressé. David se sentait menacé malgré qu'il n'était pas coupable. Il était effrayé en entendant ceux qui hurlent contre lui. Ils entendaient les troupes arriver là, en hurlant contre lui. Il était abandonné et trahi par les hommes qui se rangeaient tout le temps du côté de ses oppresseurs, de ses accusateurs. Il était harcelé tout le temps, tout le temps. Bafoué dans ses droits, traqué, épié, observé, errant, abattu en larmes, qu'on lit dans les psaumes. En détresse, il crie à Dieu pour sa protection. Quelle angoisse, quel fardeau lourd sur David pendant tout ce temps. Et là, la question qu'on peut se poser, combien de temps ça a duré, ça? Toutes ces injustices-là contre David. Quelques semaines? Quelques mois? La Bible ne nous donne pas une réponse directe à cette question-là, mais elle nous donne quelques indicateurs chronologique, on pourrait dire, et quand on les compare, on les met ensemble, vous savez quoi? On arrive à une période d'une quinzaine d'années que tout ça a duré. Une quinzaine d'années à subir les injustices d'un roi cruel, orgueilleux, et c'est vers la fin de ces 15 ans-là, donc à peu près après 10-12 ans, que notre récit commence au chapitre 25. Donc, c'est la fin du flashback que je voulais faire. Et là, au début de notre récit, on comprend à quel point le climat est lourd pour David. Ça fait quasiment 15 ans qu'il endure tout ça, malgré le fait que Dieu l'a choisi comme nouveau roi. Et donc, avec la mort de Samuel, David perd le grand prophète, fort probablement un confident vers qui David pouvait se rendre à l'occasion et avoir de l'encouragement. Et probablement que David se sent bien seul. Parce que le découragement qui suit un deuil, vous le savez peut-être, ça peut être très accablant, très écrasant. et même parfois conduire à un relâchement spirituel. Et donc, on poursuit au verset 2 de notre chapitre 25. « Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. » On va s'arrêter là. Donc, David est toujours en fuite avec ses hommes. Et dans cette région désertique-là, il se retrouve à proximité de serviteurs qui font la tonte de larges troupeaux de brebis pour un total de 3000 brebis. Et ces troupeaux-là, on nous dit, appartiennent à Nabal, un homme dur, méchant. D'ailleurs, le mot Nabal, en hébreu, la signification de ce nom-là, ça veut dire fou, stupide. Probablement que ses parents ne l'ont pas appelé comme ça à la naissance. Hein? Tu n'appelleras pas ton enfant fou ou stupide. Et on peut donc présumer que c'est plus tard que ce surnom-là lui a été donné. Et dans la parole de Dieu, la folie, ce n'est pas dans le domaine de l'intelligence. La folie a toujours à voir avec le domaine de la moralité. On voit ça, par exemple, dans Psaume 14, 1. Donc, probablement que Nabal s'est acquis ce nom-là, ce surnom-là, parce qu'il vivait sa vie sans Dieu. Un homme qui vit sans Dieu, c'était ainsi que Nabal était connu. Son épouse était Abigaïl, par contraste, une femme sage, une femme de belle apparence. Et on nous dit que Nabal était sûrement un homme très, très riche. Parce que posséder de larges troupeaux d'animaux comme ça, qui sont très fertiles, comme des brebis, ça s'accroît très, très vite, ça se multiplie rapidement, et donc sa prospérité s'accroissait aussi rapidement. Et la tonte des brebis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis assez loin de ça, je ne suis pas familier avec la coutume, mais on nous dit qu'à l'époque, la période de la tonte des brebis, c'était une période de fête, comme une récolte. Il y avait de l'abondance, on récoltait la laine pour confectionner les vêtements. Il y avait des réjouissances, c'était des festins, c'était l'hospitalité. Souvent, le propriétaire des troupeaux de brebis invitait tous ceux qui l'avaient aidé à garder les brebis au fil des années, à garder ses troupeaux, et c'est donc la fête. David lui-même, on se souvient, avait été berger quand il était plus jeune, et donc il connaissait très bien cette coutume-là de la tonte des brebis et tout ce qui entourait la fête. On continue, verset 5. Alors, on parle de David ici. « Il envoya vers lui, vers Nabal, 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. » Rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Donc, on imagine, le serviteur de David vient juste de dire ça, à Nabal lui-même, puis là, il attend la réponse. David, on réalise qu'il était constamment en besoin de nourriture. Hein. Il est en fuite. Il y a une troupe avec lui d'à peu près 400 hommes. Souvent, c'est des régions désertiques. Il était constamment en besoin de nourriture et d'eau pour toute sa troupe qui était en fuite dans ces régions-là. Donc, sa demande était légitime. Sa demande était légitime envers Nabal, de recevoir de son superflu, simplement, parce que c'était une occasion de fête. Et cela, David le demandait en échange de la protection contre les brigands, contre les prédateurs, les animaux, que les hommes de David avaient sûrement assuré pendant toute cette période-là de tonte des brebis qui pouvait s'étaler sur plusieurs jours. Et là, on va l'écouter la réponse de Nabal au verset 10. Voici sa réponse. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail, que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais trop d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Ils donnent le compte-rendu. Alors, on constate que non seulement le riche Nabal refuse avec dureté, avec égoïsme, mais il traite David avec mépris. Il n'ignore pas que David, c'est le fils d'Isaïe. Ça court partout. Tout le monde sait dans le pays d'Israël que Saül est à la recherche de David pour le tuer. Il ne l'ignore pas. Et il le désigne comme un simple serviteur de Saül. C'est comme si Nabal disait un peu dans ses mots, « Mais David, pour qui se prend de me demander ça? » On continue. Au verset 14, un des serviteurs de Nabal, lui prend la parole, vint dire à Abigaïl, la femme de Nabal, « Voici, David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. » C'est un des serviteurs de Nabal qui dit ça. Et donc, le refus de Nabal, son manque de reconnaissance envers la protection que David avait fournie, c'est une injustice de plus que subit David. Ça faisait des années que David supportait les injustices du roi Saül, on l'a vu plus tôt, une quinzaine d'années, et voilà que Nabal agit lui aussi avec méchanceté, avec David. Pour David, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il n'en peut plus. Continuons la lecture au verset 13. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Verset 21. David parle toujours, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Ouf, des paroles très dures ici. Cette nouvelle injustice-là que David subit, ça déclenche une colère intense, une rage terrible et un désir de se venger immédiatement. Là, il est en train d'ordonner à 400 de ses hommes de prendre les armes et de se préparer au combat parce qu'il se disait, « Ça n'a rien donné, moi, que je fasse du bien à Nabal. Il m'a rendu le mal pour le bien que je lui avais fait. Ça n'a rien donné. » Je reçois le mal. C'est tellement injuste, se disait David. C'est tellement injuste. Et remarquons que David, dans ses paroles, ose mentionner Dieu. Dans ses paroles de vengeance, se désignant lui-même un serviteur de Dieu. Parce qu'il se pense tout à fait justifié devant Dieu, d'exercer ainsi sa vengeance personnelle. D'ailleurs, ça va être une vengeance terrible. Sans pitié. Ça va se passer la nuit, parce que le matin, il doit rester personne de vivant de toute la famille qui appartient à Nabal. Quel massacre! Et là, David, ce n'est pas juste des paroles, il passe à l'action et il est en route avec ses hommes pour se rendre chez Nabal. On peut se demander, peut-être on peut même être étonné, comment ça se fait que David réagit si durement après avoir résisté pendant toutes ces années à l'idée de se débarrasser du méchant roi Saül. Qu'est-ce qui a fait que David a explosé de rage à ce moment-là. Était-ce la pression de ces centaines de soldats qui voulaient piller les biens de Nabal pour enfin se nourrir? Ils avaient tous faim. Était-ce la lassitude de David de se retrouver sans l'aide de personne encore? Était-ce peut-être l'absence apparente du secours de Dieu? Il semble que Dieu n'intervient pas. On ne sait pas trop, mais ce qui est clair, c'est que David a craqué. David a craqué dans cette situation parce qu'il a décidé de prendre lui-même les choses en main, puis rapidement. Mais pensons à nous-mêmes. C'est quoi notre réaction à nous quand une personne agit injustement envers nous? Parfois, on rend service à quelqu'un, et puis en retour, la personne nous rend le mal ou nous méprise. Est-ce qu'on est aussi, nous aussi, dominés par des sentiments de colère, d'amertume, parfois de vengeance? Est-ce qu'on pense avoir le droit de prendre les choses en main, puis très rapidement, parce qu'il en va d'une injustice contre nous? Est-ce que parfois, en plus, on ose mettre le nom de Dieu dans notre projet de vengeance? Est-ce qu'on va même parfois aller chercher des alliés, à droite ou à gauche, qui vont nous appuyer dans notre projet de vengeance? Vous savez, comme moi, il y a encore beaucoup de Nabal qui existent sur la terre aujourd'hui. Il en reste. Et les tentations ne manqueront pas lorsqu'on vivra de l'injustice, qu'on sera confronté, nous aussi, à des émotions de colère, de vengeance. Et ça va être facile pour nous aussi de tomber dans toutes sortes de pièges quand on vit de l'injustice. Parce que parfois, après avoir réclamé à Dieu de nous faire justice, tout de suite après, on s'empresse de le faire à sa place parce que ça prend trop de temps. Alors oui, la colère peut être déclenchée, une colère très forte. Quand on vit de l'injustice, on le voit avec David. Alors, on a vu d'abord le fardeau, qui est très lourd, qui est écrasant, lorsque les injustices pèsent de tout leur poids après de longues semaines ou de longs mois. On a vu à quel point l'injustice peut conduire au découragement. Il semble que la situation continue. Dieu ne semble pas intervenir. On a vu ensuite la colère intense qui peut se déclencher, parfois par un événement qui a l'air banal, grosse colère qui explose. Heureusement, on va arriver au réconfort. Où se trouve le réconfort véritable? Continuons notre lecture au verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. » Et je veux attirer votre attention à la fin, lorsqu'il dit « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. » Le serviteur y parle à Abigaïl. « Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. » Voyons-nous ici Dieu agir dans sa providence en faveur de David par un simple serviteur. Un serviteur de Nabal dont on ne connaît même pas le nom. Ce serviteur-là, il n'a pas osé aller parler à Nabal. Il prenait pas mal de courage pour aller lui parler à lui. Mais il est allé parler à son épouse, de l'informer de la situation. Et cette dernière, étant une femme sage, elle sait que le temps presse. Ça presse. La catastrophe va arriver très, très, très bientôt. Alors, elle agit très vite. Continuons la lecture au verset 18. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Remarquons les grosses quantités ici. Elle l'a mis sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Abigaïl a rapidement pris l'initiative, à l'insu de son mari méchant, de rassembler une grande quantité d'aliments et de breuvages pour David et ses soldats. Elle a rassemblé ses propres serviteurs pour aller transporter tout ça et aller rapidement à la rencontre de sa troupe à David pour offrir le tout. Et elle voulait avoir un entretien direct face à face avec David. Elle demande humblement à David de l'entendre et il a accepté de l'écouter. Lisons au verset 26 ce qu'Abigaïl va maintenant dire à David. Verset 26. « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » On va s'arrêter là. Quelle parole puissante! Après avoir demandé pardon, quelle raison Abigaïl mentionne-t-elle à David pour le stopper dans son projet de vengeance? 6 fois, elle mentionne l'Éternel. 6 fois, elle évoque le Dieu qui est vivant. C'est ce même Dieu qu'elle dit à David qui t'a empêché de répandre le sang. Et voyez-vous ici comment Dieu, dans sa bonté, intervient. C'est comme s'il disait à David de cette façon-là, « David, je ne suis pas inactif dans toutes les injustices que tu vis. » Est-ce que tu le vois, David, là? « J'ai entendu tes cris, David. Toutes les prières que tu as écrites dans les psaumes, je les ai toutes entendues. Et maintenant, je t'envoie 7 femmes pour t'arrêter sur ton chemin de vengeance. Je suis là, David. » C'est un peu comme si Dieu lui disait ça de cette façon-là. Parce qu'Abigaïl évoque que c'est Dieu qui est en train de lui faire une maison stable. Et ensuite, remarquez la phrase. Elle décrit la protection de Dieu envers David avec une image poétique. L'image suivante. L'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Dieu répond à David, David le poète, parce que David a écrit beaucoup de poésie dans les psaumes. Dieu lui répond avec de la poésie. On voit ici comment Dieu est merveilleux. Pour comprendre l'image qui est dans cette poésie-là, il faut savoir que dans cette culture-là, parce que c'est une image qui ne nous parle pas nécessairement beaucoup à nous, dans cette culture-là, c'était courant de lier ou d'attacher ensemble les objets précieux. Alors, ce n'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas des coffres à forts ou je ne sais pas quoi. On attachait ensemble les objets précieux, les plus précieux qu'on avait dans la maison, on les attachait, puis on les mettait à l'abri dans un endroit un peu discret, et ils étaient tous liés ensemble. Et c'est cette image-là que Abigaïl utilise pour parler de la protection que Dieu accorde à David. C'est comme s'il lui dit avec cette métaphore-là, « David, ta vie est précieuse pour Dieu et il va la préserver dans le faisceau des vivants. » Et elle dit ceci au sujet de David et elle lui dit au sujet de Saül, son ennemi qui ne lâche pas depuis 15 ans. Elle dit ceci, elle nomme même pas son nom, Saül, le méchant roi, et elle dit, « David, Dieu va lancer du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. » Comme lorsque dans une fronde, on lance une pierre, la pierre s'en va très, très, très loin. C'est ça que Dieu va faire avec les ennemis de David. Et elle termine son intervention à Abigaïl en disant, « C'est Dieu, David, qui va faire tout ce bien-là pour toi. » Dieu lui-même, parce que c'est lui qui t'a établi chef sur Israël. C'est donc Dieu, David, qui va venger le mal de tes adversaires. Et donc, Abigaïl est en train d'encourager David à lever les yeux beaucoup plus haut que les événements qui se passent, les injustices qu'il subit. Parce que c'est le plan de Dieu qui va avoir préséance sur tout le reste. Les paroles de Dieu, les promesses de Dieu envers David, ces promesses célestes-là vont avoir le dessus sur tout, vont triompher de tout. C'est comme si elle lui dit, David, là, aligne ta vie tout de suite, aligne-la sur ce qui va triompher, le plan de Dieu qui va triompher. Renonce à ta vengeance personnelle, parce qu'un jour, lorsque toutes les injustices auront été enlevées de ta vie par Dieu, tu n'auras aucun remords, parce que tu auras aligné ta vie et remis à Dieu les épreuves que tu vis. Quand on se fait parler comme ça, ça fait réfléchir avant de se venger. Ça a été quoi sa réponse à David au verset 32? Voici sa réponse. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Et au verset 35, David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et il lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Donc David a décidé de s'en remettre à Dieu pour la vengeance de cette injustice. La suite du récit, on n'aura pas le temps de lire tous les détails, mais montre comment Dieu est intervenu ensuite dans cette situation-là avec Nabal. Abigaïl, dès le lendemain de ce qu'on vient de lire, Abigaïl a décidé d'en parler à son mari, à quel point il venait d'échapper à un massacre. Elle lui raconte ça, vous lirez le reste du chapitre, et lorsqu'elle lui raconte ça, le texte nous dit que le cœur de Nabal a reçu comme un coup mortel. Il est devenu comme une pierre, son cœur. Je ne sais pas s'il était paralysé, mais suite à ça, 10 jours plus tard, Nabal est mort. 10 jours ensuite, Dieu a frappé de mort Nabal. Et donc, on voit que les promesses de Dieu ont préséance sur toutes les injustices terrestres qu'on peut subir. On préséance sur nos émotions de colère, de vengeance. Et un peu, je reviens avec ma mésaventure de stationnement là, du début. Le règlement qui était affiché le plus haut en haut, c'est lui qui avait préséance sur tout le reste. Sur toutes les règles qui apparaissaient un peu plus bas. Si, puisque j'avais pris ma décision sur les règles du bas du panneau, mais là j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes dans ma mésaventure. Alors, il vaut mieux aligner notre vie sur ce qui est le plus haut, sur ce qui a préséance, c'est-à-dire les promesses célestes de Dieu. Vous le savez probablement comme moi, la parole de Dieu affirme clairement ceci dans Jacques 1:20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, lorsqu'on subit une injustice, que les émotions de colère surgissent en nous, prennent le dessus, il faut les maîtriser parce que jamais notre colère va accomplir la justice de Dieu. C'est ce que Dieu en dit, quoique nous, on pense pour se justifier dans cette démarche-là. Nos plans humains pour se venger, nos plans humains pour prouver notre justice, ça ne nous revient pas. C'est Dieu qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », dit l'Éternel. Ça, c'est dans Romains 12, 19. On peut se demander, et j'arrive à la conclusion, pourquoi est-ce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu? Et là, on rouvre une perspective sur la vie de David qui est merveilleuse quand on fait un parallèle avec un descendant de David, bien particulier, Jésus, le Messie, descendant de David. On voit que David, il y a un gros contraste. David a subi plusieurs injustices. Jésus a subi la plus grande injustice de tous les temps, On l'a tué alors qu'il était parfait sans péché. David a réagi contre son ennemi par la colère et la vengeance. Jésus a réagi avec douceur, sans se défendre. David, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il voulait faire? Tuer, puis enlever la vie. Jésus a pardonné et donné sa vie. David a été repris par Dieu, qui a empêché sa mort à David. Jésus a été approuvé par Dieu, qui n'a pas empêché sa mort à la croix. Mais Jésus n'a pas été victime d'une erreur judiciaire. Il a donné sa vie volontairement à notre place, qu'il dit clairement dans Jean 10. Et ceci nous amène à considérer maintenant pas seulement les injustices que l'on a subies, mais les injustices que l'on fait subir aux autres. Ces injustices-là, aux yeux de Dieu, elles ne sont pas banales, celles qu'on inflige aux autres. Elles ne sont pas banales, ce sont des péchés qui demandent aussi une vengeance et une punition. Quand on réclame la justice, ça s'adresse à nous aussi. Et voilà pourquoi Jésus a donné sa vie volontairement à notre place pour payer nos injustices qu'on a infligées aux autres. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te donner gratuitement sa justice qu'aucun de nous ne méritons, simplement si tu te repens et tu crois. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je ne vous connais pas, mais je vous lance la question. As-tu reçu la justice de Jésus? Parce que si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire dès ce matin, en lui demandant, en parlant avec quelqu'un qui peut t'aider à recevoir la vie éternelle. Parce qu'en effet, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui accomplit la justice de Dieu? La croix de Jésus. Seule la mort de Jésus à la croix a accompli la justice de Dieu. Voilà ce qui a préséance sur tout, sur toutes les injustices. Lorsque Jésus dit dans Apocalypse 1,18, parole merveilleuse, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Donc, cette victoire de Jésus a préséance sur tout, sur toutes les injustices que l'on peut subir et qui peuvent nous amener dans toutes sortes de projets de vengeance. Mais pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus, notre vie est précieuse et est cachée en Christ, dit la parole de Dieu. Alors, on peut trouver le réconfort dans ces paroles du psaume 37, versets 7 à 9. Écoutons bien ces paroles que Dieu nous dit lorsque l'on vit des injustices. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc, appuyons-nous sur cette parole de Jésus. Merveilleuse parole. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen.